Luc Teumans, bonjour.
Bonjour.
Comment est né ce projet de l'Empire interdit ?
C'est compliqué à expliquer, mais c'est-à-dire qu'il y a eu une demande de directeur du Palais des Beaux-Arts, Paul Desjardins, de conceptualiser un expo pour les Chinois, parce qu'il y a eu une demande aussi directement de Madame Zhang, qui est l'ambassadrice de la Chine, ici, à Bruxelles. D'abord, elle voulait faire un expo de Rubens. De faire un expo de Rubens en 5 mois, c'est d'une certaine qualité, c'est impossible. Et alors là, il y a eu... En même temps, il y a aussi la proposition de Paul d'organiser plus tard, c'est-à-dire en 2009, un expo sur l'art contemporain et l'art contemporain belge. Et d'abord, j'ai révisé, parce que j'ai trop de travail comme artiste moi-même. Et je n'ai jamais été en Chine. Mais j'ai beaucoup des amis chinois, des peintres, des curateurs, des critiques, que j'ai rencontrés en fait à Venise, quand j'étais invité par Obster pour réévaluer l'idée de la Biennale de Venise. Et là on s'est causé, ils ont dit « oui, mais on va t'aider ». Quoi. Parce que moi, je veux d'abord que les Chinois font ça eux-mêmes. Je pense que c'est pas vraiment, non seulement pas pratique, mais c'est même pas une possibilité de faire ça comme un certain paternalisme de ce côté ici. Alors là, j'ai dit, oui, bon, j'ai reconsidéré, j'ai accepté de faire ces expos. La première expo, c'était un expo sur, en fait, l'art traditionnel. Alors, j'ai conçu un concept qu'on commence avec le 15e siècle jusqu'au 20e siècle, qui devait être juxtaposé par aussi des œuvres chinoises dans le même, cours du temps.
Alors, quelle est votre vision de cet empire interdit au cours de l'histoire et puis aujourd'hui ?
En fait, je dois dire que l'expo est assez intéressant parce que c'est une manière de réactiver, en fait, l'art traditionnel, qui se trouve, en même temps, j'ai fait une sorte d'escalade dans le temps, mais c'est aussi une opportunité de montrer que ce n'est pas que ça, quoi. C'est un peu plus compliqué que ça. Et de montrer d'abord beaucoup de diversité, qui est important, parce qu'il y a des idées fixes dans les deux mondes, chez nous comme chez les Chinois. Il y a un exotisme faux qu'on doit démolir d'une manière ou d'une autre. Et dans ce sens-là, la vitesse dont on a fait l'expo a aidé un peu, parce que l'intuition est devenue quelque chose d'intelligent dans ce sens-là.
Comment avez-vous travaillé avec le commissaire chinois Yu Hui ?
Avec un interprète. Mais je dois dire, la quatrième fois qu'on s'est rencontrés, c'était sans l'interprète, il a parlé anglais. Ça veut dire qu'il était si enthousiasmé sur le projet, parce que même les Chinois, et spécialement le docteur Yu Hui, avaient compris que ça créait une sorte de momentum historique. C'est ça qui est important, c'est-à-dire d'ouvrir. Ils ont compris aussi qu'il y a eu énormément de missions économiques, n'importe quoi, qui ont été lardées par des expos mineurs, minables. Et je les ai dit, on va faire quelque chose qui a une certaine qualité, qui a une sorte de balance dans ce sens-là, une sorte d'égalité de montrer les œuvres et de visualiser quoi que ce soit.
Alors, comment ça s'est passé ? Vous êtes allé à Pékin dans les réserves, vous avez choisi les œuvres, et lui, il est venu à Bruxelles ?
Un peu plus différent que ça, c'est-à-dire que d'ailleurs les Chinois n'ont pas pu voir quoi que ce soit ici parce que le Palais de Beaux-Arts n'a pas de collection. Alors c'est un travail que nous on fait et eux ils ont tout en fait, ils ont tout dans le Palace Museum. On est y allé, on a vu quelques œuvres, mais pas tous. Et de là, on est, pouvait pas me rendre chaque fois à Beijing, ou Yui pouvait pas venir chaque semaine, par exemple, ici à Bruxelles, ou à Vienne, ou à Dresden, ou n'importe quoi, n'importe où. Alors, on a, à plusieurs reprises, on a communiqué avec des emails, avec des images digitalisées, quoi.
Et c'est un choix commun, ce qu'on voit là.
C'est un choix qu'on a, oui, qu'on a eu des discussions là-dessus, on a fait, oui.
Alors, est-ce que d'avoir travaillé sur la Chine pour cette exposition a changé votre regard sur l'art chinois ?
Oui, certainement. C'est-à-dire que je suis frappé par la diversité C'est-à-dire qu'il y a une diversité, une subtilité qu'on n'aperçoit pas à première vue, quoi. On prend tout pour quelque chose de plus, enfin, plus généralisé. Et c'est un peu plus, plus intéressant que ça, quoi.
Alors, vous êtes artiste vous-même. Qu'apporte ce regard d'artiste sur un sujet comme celui-là?
Comme je l'ai déjà dit, c'est-à-dire que pour moi, en tant qu'être artiste, en tant que j'ai aussi fait des études de l'histoire de l'art, enfin, mais je sais rien de l'art chinois, par exemple. Je suis pas un expert là-dessus, et non pas aussi sur le 15e, 16e ou 17e siècle, par exemple. Mais j'ai été aidé par des gens fabuleux comme Manfred Zelink ou Paul Uven. Manfred Zelink, c'est le directeur du Groninger Museum à Brugge, et son co-curateur comme Tilterborg, un Allemand, et Paul Uven et des autres gens qui m'ont vraiment assisté aussi. Et ce qui était important, c'est que dans ce monde, qui est un monde assez clos d'académiciens, il y a des problèmes sur le plan humain, mais pas sur l'idée de l'œuvre. L'œuvre, ce sont des chefs-d'œuvre dont on parle. Alors là, la discussion est déjà close. Qui est intéressant parce que ça donne une sorte de une autre espèce de travailler avec l'objet d'art, quoi.
Alors, art occidental, art chinois, est-ce qu'ils peuvent se retrouver?
C'est à cause de ça que je vais commencer avec le 15e siècle, parce que le 15e siècle, c'est encore le monde comme un tout. C'est-à-dire que même quelqu'un comme, par exemple, Van Eyck, qui était la première de partir un petit peu de s'en partir un petit peu de cette image mimétique, et qui a, avec un réalisme fou, il fait la première étape vers diversifier en fait l'image. Même lui reste encore, comme toute la science d'ailleurs, dans le 15e siècle, sous le dogme religieux. C'est à cause de ça que j'ai commencé avec le 15e siècle. Et chez eux, c'est un peu la même chose. En tant qu'on va voir dans l'expo et dans le temps, on voit naturellement que ici c'est beaucoup plus petit, là-bas c'est beaucoup plus grand. Et il y a eu énormément de guerres ici, on avait des différents pouvoirs qui ont joué, des différentes luttes dans la religion et tout ça, qui a changé, que nous, dans l'Occident, on s'est adapté directement dans la manière dont on a visualisé ça. Chez eux, c'est complètement différent, c'est-à-dire que c'est l'idée du balance, c'est l'idée de l'harmonie, ce sont des idées qui jouent, mais qui jouent pas directement. Et c'est là que la subtilité apparaît, qui est assez intéressant.
Est-ce que ça veut dire que dans la peinture chinoise, on y voit la philosophie du monde, et que dans la peinture occidentale, ce serait plutôt la philosophie politique?
Non, c'est la révélation. C'est-à-dire que si on peut, pour s'expédier dans quelque chose d'assez exemplaire, c'est-à-dire que qui est aussi intéressant, parce que pour eux, par exemple, Jan van Eyck n'était pas une sorte d'icône comme chez nous, ou dans l'Occident. C'est beaucoup plus Rubens. Peut-être c'est parce qu'il y a eu des jésuites qui s'installait aussi dans la cité interdite, qui a eu une certaine influence, je sais pas quoi. Mais en même temps, Rubens, c'était le premier Cecil B. DeMille, c'est le premier cinématographe, c'est-à-dire que c'est la contre-réformation, c'est l'idée de faire des œuvres, en fait, dans le temps le plus grand, en fait, pour le public le plus grand possible. Et ça, pour eux, c'est quelque chose de pas évident, et c'est à cause de ça qu'ils aiment ça, en fait. C'est aussi une sorte de cliché stupéfiant. Et en tant que les œuvres qu'eux, ils ont fait, par exemple, le portrait n'est pas important, c'est vulgaire. Et d'ailleurs, les portraits comme celui qui est sur l'affiche de la concubine a été peint par un Italien, pas par un Chinois. Ce sont des différences comme ça qui sont assez intéressantes.